Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h56 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi Apolline Matin pour vous réveiller. On est ensemble jusqu'à 9h. Et alors attention, on en prend à l'instant. Donald Trump qui menace la France de droits de douane. Augmenter les droits de douane sur les vins et les champagnes français de 200%, il l'a dit à l'instant, c'est sa réponse à la France qui à la fois s'oppose à sa volonté de s'emparer du Groenland, mais qui pour l'instant menace également de ne pas rentrer dans son Conseil de la paix, une sorte d'alternative à l'ONU. Et il dit donc à l'instant, Donald Trump, que si Emmanuel Macron refuse de rentrer dans le Conseil de la paix, eh bien il va augmenter les droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français. Ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Au 32-16, je vous attends, en particulier si vous êtes viticulteur ou travaillez dans ces domaines-là. Et puis plus globalement, est-ce que la manière très hiératique de Donald Trump de s'en prendre à la France et à l'Europe vous inquiète? Je vous attends au 32-16 pour y réagir. Et puis cette question ce matin, le 49-3, parce que ça y est, c'est le jour J. On ne savait même plus comment ça allait finir par atterrir, ce fameux budget. Eh bien donc, c'est ce soir, 49-3, le gouvernement qui va jouer donc sa responsabilité. Et à 7h40, toutes les explications du politologue constitutionnaliste Benjamin Morel, qui sera dans ce studio. Ça aussi, ça vous fait réagir. À 8h30, mon invité, ce sera Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme, le monsieur budget du Rassemblement National. Il est 6h58, on se retrouve dans un instant pour le journal de 7h. Excellent réveil à tous, il est 6h59, vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de 7h avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des droits de douane à 200% sur les vins et champagnes français. Menace de Donald Trump ce matin en réponse à Emmanuel Macron qui refuse de rejoindre pour l'heure le Conseil de la paix de Donald Trump. Le 49-3 comme dénouement à la crise du budget, regret et amertume pour Sébastien Lecornu, contraint de devoir revenir sur sa parole. Et vous entendrez le désarroi de parents après le rappel de Les Infantiles du groupe Nestlé.
Une colère ce matin, celle de Donald Trump.
Très remonté contre Emmanuel Macron, le président américain qui invite son homologue russe Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix, s'est exprimé après le refus de la France de participer à cette initiative visant à résoudre les conflits internationaux. Et cela ne lui plaît pas du tout. Donald Trump le fait savoir à sa manière.
Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra.
Les mots donc de Donald Trump avant de s'envoler pour le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron, il sera cet après-midi avec un discours d'autant plus attendu sur fond de tension, avec en toile de fond le Groenland que le président américain souhaite acquérir. Les menaces de rétorsion européenne ne lui font pas peur, ils ne vont pas résister bien longtemps, ajoute Donald Trump ce matin, alors que des avions d'une force militaire américano-canadienne sont en route pour le Groenland, exercice prévu de longue date coordonné avec le Danemark.
Il est 7h01 sur RMC. Sébastien Lecornu a donc fini par trancher.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement.
Et le budget passera donc par le 49-3, vous l'avez compris. Face à l'impasse, le Premier ministre a décidé de rétro-pédaler, renoncer à son engagement. Il engagera la responsabilité de son gouvernement dès aujourd'hui. Un premier 49-3 sur la partie recette du budget. Deux autres suivront afin de promulguer le texte avant mi-février. Et à chaque fois, il sera soumis aux motions de censure des Insoumis et du RN, avec l'espoir de survivre grâce au soutien Romain Cluzel des socialistes.
Et le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, ne laisse aucune place au doute. En l'état, son groupe ne va pas voter la censure contre Sébastien Lecornu, même s'il n'est pas vraiment satisfait de ce budget.
Ah non, j'en suis pas fier, c'est pas le nôtre. Mais je crois que nous avons fait œuvre utile en ne perdant jamais de vue les hommes et les femmes pour lesquels on se bat.
Boris Vallaud cite notamment les dernières concessions de Sébastien Lecornu, comme la hausse de la prime d'activité ou le repas à 1 euro pour les étudiants. Mais tout cela ne convainc pas le député RN Laurent Jacobelli.
Au final, on a un très mauvais budget présenté par un Premier ministre qui finalement
sauf son poste, joue la durée, mais n'apporte aucune réponse au problème des Français.
Son groupe va déposer une motion de censure, tout comme les Insoumis, pour répondre au 49.3 utilisé par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre dit activer cet outil avec regret, ce qui fait bondir la députée LFI Danielle Obono.
C'est du mauvais théâtre, il se pose presque en victime du coup de force antidémocratique. Il piétine l'Assemblée nationale et en vérité, c'est les Français et les Françaises qui l'insultent.
Mais ces deux motions de censure n'ont aucune chance d'aboutir sans les voix ni des socialistes ni des LR.
Il ne manquait pas ce matin à 7h40 les explications du politologue Benjamin Morel et notamment sur ce calendrier du 49-3 à rebondissement dans les semaines qui viennent. Et puis à 8h30, ce sera la réaction politique. Mon invité, ce sera le député RN Jean-Philippe Tanguy.
Le retour du débat sur la fin de vie, 8 mois après son adoption par l'Assemblée nationale. Les sénateurs vont se pencher sur les deux textes de cette réforme promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le premier au sujet des soins palliatifs, le second sur l'aide à mourir. Le vote est prévu à la fin du mois sans garantie de succès.
Début ce jour de 3 jours de deuil national en Espagne au surlendemain de la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 40 passagers.
Et le bilan est toujours provisoire. Il pourrait s'alourdir au-delà des blessés hospitalisés, une quarantaine. Les secours s'activent dans les carcasses des deux trains à la recherche de survivants. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Et pour leur famille, l'attente est interminable. Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC, s'est rendue à Cordoue devant l'un des centres d'accueil pour les familles de victimes.
Les yeux rivés au sol, la mine grave, des familles escortées par la protection civile entrent une à une dans ce grand bâtiment entouré de cordons de police sans s'arrêter devant les caméras de journalistes tenus à distance. Tous ici sont à la recherche d'un proche toujours porté disparu, Lourdes Escobar, psychologue à la Croix-Rouge.
Nous sommes là pour leur apporter un soutien face à leurs besoins émotionnels d'expression et de réconfort. Ils arrivent avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse et au fil des heures, même si nous essayons d'être là pour eux, cela devient de plus en plus pénible.
Certaines familles ont passé la nuit ici, scrutant leur téléphone dans l'attente d'une bonne nouvelle. Les avis de recherche se multiplient sur les réseaux sociaux, des photos d'un père, d'une fille, d'une amie. Pour tenter d'accélérer l'identification des victimes, la garde civile a ouvert plusieurs bureaux de prélèvement ADN, dont un ici à Cordoue.
Rachel Sadodine, envoyée spéciale RMC en Espagne. Le Premier ministre espagnol a lui promis une transparence absolue sur les circonstances de l'accident alors que les enquêteurs cherchent à comprendre les causes du déraillement du premier train venu s'encastrer dans le second. Les excuses du patron de Nestlé au cœur de la tempête après le rappel de les infantiles Gigoz et Nidal, des mots qui n'ont pas calmé la colère de parents de jeunes nourrissons. Ils ne comprennent pas comment une substance d'origine bactérienne a pu atterrir dans ces produits pour bébés. C'est le cas de ses parents rencontrés par notre correspondant à Lyon, Vincent Chevalier.
Quelques jours après sa naissance, la fille de Kimberley et Mathieu présente des symptômes inquiétants.
Elle régurgitait beaucoup, elle avait des spasmes, elle se tordait dans tous les sens.
Après plusieurs visites chez le médecin, le couple le découvre. Plusieurs références du lait qu'ils donnent à leur fille font l'objet d'un rappel.
C'était très compliqué, on s'est dit, on a empoisonné notre enfant. On lui a fait vivre ça alors qu'il vient juste de naître.
Des parents aujourd'hui en colère, comme Grégoire. Ce jeune papa envisage même la création d'un collectif, voire d'un recours en justice.
J'attendais justement de voir un peu où ça allait, jusqu'où ça allait aller. Si je vois qu'il y a vraiment d'autres parents bien remontés, ouais, ça laisse penser que je vais me lancer dedans.
Selon Nathalie Goutalant, avocate spécialisée en droit de la sécurité alimentaire, mieux vaut garder les produits suspects pour les faire analyser. Et si les symptômes persistent chez l'enfant,
demander au médecin qu'il constate, mais aussi qu'il fasse une démarche administrative, une déclaration obligatoire de toxi-infection alimentaire collective, puisque là, on se retrouve effectivement dans ce cadre-là maintenant.
De son côté, Nestlé s'excuse, mais le groupe ajoute n'avoir aucun cas de maladie en lien direct avec les produits concernés à ce stade.
Les établissements scolaires resteront fermés ce matin dans 109 communes de l'Aude au lendemain de fortes précipitations. Il est tombé jusqu'à 4 mois de pluie en 2 jours. La décrue amorcée de certains cours d'eau dans le département s'annonce particulièrement lente. Le retour de la Ligue des Champions, ce soir le PSG se déplace à Lisbonne face au Sporting avec l'objectif pour les Parisiens, 3e ce matin au classement, de valider leur billet pour les 8e de finale. La mission sera plus compliquée pour Monaco, attendu sur la pelouse du Real Madrid. Rendez-vous sur RMC ce soir pour cette 7e journée de Ligue des Champions à 21h. Et puis événement dans le monde du basket, la première titularisation de Victor Wembanyama pour le All-Star Game de la NBA mi-février. Giancarlotti, c'est inédit pour un Français dans ce match de gala entre les meilleurs joueurs du championnat américain.
Et oui, même la légende Tony Parker n'a jamais été titulaire en 6 participations au All-Star Game. Alors à tout juste 22 ans, Victor Wembanyama entre un peu plus dans l'histoire du basket français. L'an dernier, il était remplaçant, cette année pour sa 3e saison NBA seulement. Wemby intègre la liste des 10 joueurs titulaires pour l'édition 2026 de ce match de gala. Auteur d'un excellent début de saison avec la franchise des Spurs, le natif des Yvelines a séduit les fans, les joueurs et les journalistes chargés de voter pour former les équipes. Le 15 février à Los Angeles, le géant de 2m24 foulera le parquet aux côtés de grands noms du basket mondial, notamment le Slovène Luka Doncic, le Serbe Nikola Jokic et la légende des Golden State Warriors, l'Américain Stephen Curry.
Et le parcours sans faute des handballeurs français, 3e succès de rang hier soir à l'Euro face à la Norvège, 38-34 place désormais au tour principal. Ça débute jeudi avec une rencontre face au Danemark.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 et vous êtes nombreux à réagir à cette annonce de Donald Trump. Il menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Samuel, vous êtes routier dans le Calvados, sur les routes peut-être d'ailleurs à 7h08.
Oui, c'est ça, oui.
Déjà, vous êtes dans quel coin ?
Je suis du côté d'Amiens.
Du côté d'Amiens. Samuel, comment vous réagissez ? Comment suivre, au fond, les annonces et les menaces de Donald Trump ?
Ouais, mais moi, je pense que votre président, il faudrait voir qu'il en est un peu dans le pantalon, parce qu'on en a marre de se faire marcher un peu dessus par tout le monde. Mmh. Et ben, s'il veut augmenter les droits de douane sur nos vins et nos champagnes, ben, moi, je dis qu'il faut arrêter de l'en vendre. Faut même pas lui en vendre, faut dire vous méritez pas notre vin et notre champagne, terminé, on vous en vend plus. Et nous, on augmente de 400% les droits de douane sur les produits américains. Et on va voir, parce que leur gaz de schiste, là, que nous, on n'a même pas le droit de produire parce que ça pollue trop, faut arrêter de l'acheter, quoi. Et puis on verra bien qui c'est qui va baisser son pantalon en premier.
Non, mais ouais. on en est là. J'avoue, Samuel, qu'on en est là, parce qu'on a vraiment l'impression. Je vous explique la scène pour que vous compreniez bien. En fait, Donald Trump s'apprêtait à monter dans son avion, direction d'ailleurs l'Europe, puisqu'il vient en Suisse à Davos au sommet de tous les grands patrons européens. Et avant de monter dans son avion, il est interrogé par un journaliste qui lui dit, le président français a l'air de rechigner à rejoindre votre conseil pour la paix que Donald Trump veut comme une sorte d'alternative à l'ONU. Et Donald Trump littéralement répond « Ah bon, il a dit ça ? » Ah bah de toute façon, d'abord, en gros, tout le monde s'en fiche parce que de ce qu'il dit, parce qu'il sera plus là dans quelques temps, Emmanuel Macron. Et puis vous savez quoi ? Je vais lui augmenter de 200% ses taxes sur les vins et spiritueux et on verra s'il rejoint pas mon conseil sur la paix. On est vraiment littéralement dans une forme de... on se demande même si ça a été réfléchi ou si c'est une réaction spontanée. Et puis Samuel, puisque vous demandiez quelle était la manière dont Emmanuel Macron devait réagir, à l'instant, sur BFM TV, on a récupéré visiblement, c'est la réponse de l'Élysée, un texto envoyé par Emmanuel Macron cette nuit à Donald Trump. Je vous le lis, Samuel ? My friend, mon ami. Donc déjà, en effet, c'est pas du langage de rapport de force, c'est plutôt amical. Nous sommes tout à fait en ligne, totalement en ligne sur la Syrie. We can do great things en Iran. On peut faire des grandes choses aussi ensemble sur l'Iran. Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire ou ce que tu souhaites faire. J'imagine qu'il se tutoie sur le Groenland. Allez, faisons des grandes choses. Je peux organiser un G7 juste après le meeting de Davos. Et puis let us have a dinner together in Paris on Thursday. D'ailleurs, il y a marqué deux fois together, ce qui montre que Emmanuel Macron a dû l'écrire un peu rapidement son texto. Let us have a dinner together in Paris, together on Thursday, before you go back to the US. Emmanuel, voilà le texto donc que le président de la République a envoyé.
Jeudi, je
il
traduis.
Propose donc un dîner jeudi après Davos. Samuel, c'est pas exactement le ton que vous imaginez, hein.
Eh ben voilà, il baisse son pantalon, on lui a encore rien demandé, il baisse déjà le pantalon. Moi je comprends pas, faut arrêter.
Après
la France, elle est puissante, on a les moyens de faire les choses à l'international et avec un président comme ça, on passe pour des rigolos.
Merci voilà. Samuel de votre réaction, vous le voyez, ça se passe absolument en direct, on vous informe en temps réel sur RMC, donc Donald Trump qui menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Il est 7h11 sur RMC et c'est l'un des textes les plus sensibles de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi sur la fin de vie. Elle arrive au Sénat aujourd'hui. Vous faites partie des opposants à ce que l'on appelle l'aide à mourir, mais qui pour vous n'est pas vraiment ça. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour.
Professeur émérite d'éthique médicale, membre de l'Académie de médecine. Avec cette loi, pour vous, ce sont les plus fragiles qui risquent d'être ciblés. C'est votre parti pris et vous le défendez dans un instant sur RMC, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Le droit à mourir ou l'euthanasie débattu à partir d'aujourd'hui au Sénat. Le texte voté en mai dernier à l'Assemblée nationale pourrait d'ailleurs être largement remanié par les sénateurs. Pour vous d'ailleurs, il faut que les sénateurs s'en emparent. Emmanuel Hirsch, bonjour. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale et vous êtes membre de l'Académie de médecine. Ce qui vous inquiète, c'est que les plus vulnérables puissent être la cible d'une loi que personne ne pourra maîtriser. Voilà vos mots. Que voulez-vous dire ?
Je veux dire tout d'abord que j'attendais de la Chambre haute qu'elle résiste. Et là, elle a abdiqué avant même qu'il y ait du débat. C'est-à-dire, la Commission des Affaires Sociales a considéré que l'euthanasie était recevable, une euthanasie dans le cadre d'une sédation qui devient une sédation euthanasique dans le prolongement de la loi de 2016. Ça, c'est un premier point. Donc, on commence le débat au Sénat sans qu'il y aura véritablement combat. Et le combat, c'est pas pour ou contre l'euthanasie, c'est pour un certain nombre de valeurs à préserver, y compris s'il y avait l'ouverture, comme le souhaitait le Comité consultatif national d'éthique, sur l'euthanasie. Et déjà en commission des affaires sociales, un certain nombre d'amendements prudentiels ont été totalement rejetés, comme ça a été le cas à l'Assemblée. Ben, il y avait des amendements et qui c'est assez intéressant. D'abord, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, est-ce qu'ils sont en faculté du discernement ou pas ?
Est-ce qu'ils ont la lucidité de décider véritablement élément de leur mort ?
Il y avait le délit d'entrave. Vous voyez, par exemple, aussi en psychiatrie, si un médecin peut être mis en cause parce qu'il va empêcher une personne éventuellement de se suicider, pour prendre un exemple de cette nature. Il y avait également, dans les propositions intéressantes, le fait de faire une évaluation a priori, et non pas a posteriori, de la validité de l'initiative d'euthanasie. Il y avait toutes les questions autour, notamment de l'arbitrage, puisque c'est un médecin qui prend la décision, dans le cadre d'une décision collégiale, mais sans que le deuxième médecin ne rencontre la personne. Il y avait tout un ensemble d'éléments, et j'appelle ça les critères de minutie. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que sur 195 pays dans le monde, 10 ont déjà légiféré sur l'euthanasie. Et aucun de ces pays n'a pu résister à ses premières intentions. C'est-à-dire, on voit comment la loi évolue. Le dernier exemple intéressant et qui me paraît significatif, c'est le Canada, loi en 2016, qui est prêt maintenant à envisager l'euthanasie pour les maladies psychiatriques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les chiffres. Au Canada, vous avez 6,8% de personnes qui meurent aujourd'hui d'euthanasie.
C'est considérable.
C'est considérable. Si on projette en France, ça nous ferait... Et c'est là où c'est pas l'exception. Si on dit, effectivement, il y a des cas singuliers, j'arrive à le comprendre. Est-ce que des cas singuliers, on les met dans la loi ou pas? C'est une autre question. Mais j'arrive à comprendre. Je ne suis pas moins humain que l'est Olivier Falorni. Moi, toute la journée, je suis sur le terrain avec des personnes très âgées et autres.
Qui soutient...
Donc, je dis, si on va au fond des choses, peut-être qu'il y a des situations d'exception. Avant qu'on nous parle des situations d'exception, que tout le monde ait accès aux soins palliatifs.
Quand vous dites, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Les soins palliatifs, effectivement, il était normalement dans la loi que tout Français puisse avoir accès à des soins palliatifs, c'est-à-dire à pouvoir soulager sa souffrance. On sait soulager la souffrance en France, mais pour des raisons aussi de moyens, au fond, il y a un certain nombre de départements où on n'y a même pas accès aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous dites. Mais ce que vous dites, c'est que il y a même quelques garanties, de moins en moins, mais il y en a tout de même dans cette loi. Votre crainte, c'est qu'au regard de ce qui s'est passé, notamment vous dites au Québec, finalement, il y a des choses qui étaient interdites au début, mais qui petit à petit dérivent. C'est ça votre crainte?
Non, mais c'est pas une crainte, c'est un fait. Si on n'était pas avec du recul, la première loi, c'est 2001 aux Pays-Bas. Donc on a le recul. Maintenant, c'est les enfants, c'est les personnes qui, par exemple les couples, qui veulent mourir ensemble, quelle que soit leur pathologie ou pas pathologie, ont le droit. Ce que je veux dire par là, et je veux pas faire de la critique là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui éprouvent une souffrance aujourd'hui et qui nous écoutent. Une souffrance qui n'est pas que physique, qui peut être existentielle, relationnelle. Quand vous regardez, et c'est des statistiques intéressantes, que 89% quasiment des personnes qui se suicident en France aujourd'hui sur 100 000 personnes, ce sont des personnes âgées au-dessus de 74 ans. Ça pose la question, quel type de solidarité, quel type de sollicitude? Donc, ce qui m'inquiète, c'est que, en fin de compte, d'abord, le parlementaire comme Olivier Falorni, la présidente de l'Assemblée nationale, ont considéré que les sénateurs n'étaient pas allés encore assez loin, d'accord, alors qu'ils ont déjà ouvert, mais effectivement ils voulaient encadrer, notamment que ce soit des personnes qui soient vraiment en phase terminale et qui aient des douleurs réfractaires. Donc il y avait quand même dans la démarche de la commission des affaires sociales la possibilité
la volonté de mettre des garde-fous, comme on dit.
Et regardez, avant même qu'on soit dans le retour à l'Assemblée nationale, déjà un certain nombre de parlementaires contestent ces mesures. Donc vous pouvez vous imaginer la lali. Et ce qui me paraît plus intéressant à savoir avec le sujet précédent, quand on parle de la réaction du président de la République, il en a fait sa chose, comme la présidente de l'Assemblée nationale. Il faut absolument qu'on se précipite. juste pour parenthèse, on a quand même déjà une loi sur la fin de vie.
D'une on a une loi manière. Sur la fin de vie.
Et on a une loi sur les soins palliatifs
qui
aussi.
Qui n'est pas aujourd'hui appliquée, celle sur les soins palliatifs.
Attendez, qu'elle ne soit pas appliquée, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est ce qui est dit, c'est qu'elle n'est pas attribuable à toute personne. Voilà. C'est-à-dire toute personne n'est pas éligible. Mais que le président de la République considère que ce soit sa priorité, qu'il veut laisser le message à la nation qu'il a été celui qui a permis l'euthanasie, pour moi, ça m'interroge. Et ce que je demande, et je termine là-dessus, c'est si on est dans une situation ambiguë, qu'on ait un référendum. Et je pense que c'est ça qui tranchera. Je pense que chacun d'entre nous est concerné. Et le jour où on mettra le bulletin pour le référendum, on pensera à soi, on pensera aux autres, et aussi à nos solidarités. C'est pour ça, et je termine là-dessus, que je ne suis pas contre une évolution. Je suis pour le fait qu'on soit solidaire des personnes vulnérables en fin de vie. Et vous avez aujourd'hui le collectif Les Éligibles qui s'est constitué de personnes en situation de handicap, de maladie chronique.
Ils ne se sentent pas abandonnés. Et voilà. Effectivement, les chiffres que vous donnez du Canada et du Québec interrogent sur ce point en particulier, d'une sorte de pression sur les personnes les plus âgées à, en quelque sorte, quitter ce monde pour ne pas reposer sur les petits frères des pauvres,
720 000 personnes. Et je termine là-dessus, sont en situation de mort sociale. Est-ce qu'elles attendent de l'euthanasie ou de la solidarité ?
Merci Emmanuel Hirsch d'être venu défendre donc votre parti pris ce matin, professeur émérite d'éthique médicale et membre donc de l'Académie de médecine. Il est 7h21 et l'historien d'Apolline Matin est entré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, plusieurs célébrités dont le prince Harry ou Elton John attaquent le tabloïd britannique, le Daily Mail, au tribunal.
Et oui, en Angleterre, les tabloïds font et défont les réputations à Hugh Grant, David Beckham et même le roi Charles ont vu leur vie très très privée déballée dans la presse.
Vous nous en racontez l'histoire, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h22. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump, plus menaçant que jamais à l'égard des Européens et plus déterminé que jamais à obtenir le Groenland. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. L'Aude, toujours en proie aux crues ce matin. Et puis brider les voitures citadines à 120 km/h, pas pour votre sécurité, mais pour faire baisser le prix. C'est l'idée du patron de Fiat.
Donald Trump qui plante un drapeau américain sur les terres du Groenland.
C'est l'image postée ce matin par le président américain lui-même sur son réseau social, juste après avoir publié cet inédit des SMS que lui a envoyé Emmanuel Macron, contre lequel il semble très en colère, car la France a décliné l'invitation des États-Unis à rejoindre son conseil de paix, dont il veut faire le concurrent des Nations Unies. Emmanuel Macron qui a aussi appelé l'Union Européenne à ne pas céder face à la pression sur le Groenland. Le président américain lui a répondu cette nuit.
Je ne pense pas que les Européens vont résister beaucoup. Nous devons avoir le Groenland et ils ne sont pas en mesure de le protéger. Les Danois sont des gens formidables, mais ce n'est pas parce que vous avez accosté il y a 500 ans sur un territoire qu'il vous appartient. Donc on verra ce qu'il se passera. Mais le Groenland est très important pour nous.
Et désormais, Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français si le président Emmanuel Macron refuse de participer à son conseil de paix. Il annonce également une réunion des différentes parties sur le Groenland au sommet de Davos où il se rendra demain. Il est 7h33 sur RMC et l'Aude n'est toujours pas tirée d'affaire ce matin, même si les habitants évacués de Narbonne ont pu regagner leur domicile. Les établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui et le département de l'Aude reste en vigilance orange aux crues, tout comme son voisin de l'Hérault. À Argeliers, hier, il est tombé pour janvier l'équivalent de 4 mois et demi de pluie. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes ce matin en direct de Villedaigne pour RMC, où la décrue s'amorce mais s'annonce très lente.
La lente décrue s'amorce depuis quelques heures maintenant. Elle a débuté au milieu de la nuit, une très très lente décrue avec un fleuve ici là, en rivière, en l'occurrence l'Orbieu, qui a atteint hier soir au plus haut 5,70 m. Alors on est loin du record enregistré lors des crues meurtrières de 1999, puisque l'Orbieu avait atteint quasiment 10 mètres, 5,70 m. Mais dans la nuit déjà on a enregistré une baisse à 4,50 m, 4 mètres, ce qui est pour les habitants une très très bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que ici eh bien les routes restent barrées. Ici la nationale 113 qui traverse ce village de 500 habitants est en fonction depuis quelques heures. Elle n'a jamais été bloquée, mais les routes adjacentes tentes sont fermées souvent à la situation, car avec des risques d'inondation toujours possibles à tout moment ici. Vous le disiez, les écoles restent fermées. Le groupe scolaire ici pour Ville-Audaigne est fermé toute la journée pour la deuxième fois consécutive. Fermeture de 109 établissements scolaires dans les Corbières et dans le Narbonnais.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Ville-Audaigne pour RMC. Demain, ce sont le Finistère et le Morbihan qui passeront en alerte orange aux fortes pluies et risques d'inondation.
7h35 sur RMC. L'Université de Lille sur le banc des prévenus aujourd'hui.
À l'ouverture du procès de la mort de Simon Guermont-Pré, étudiant de 19 ans, mortellement percuté par un camion après une soirée d'intégration très alcoolisée à la fac où il faisait sa deuxième année de médecine. On retrouve Julie Brault en direct de Lille ce matin pour RMC. Julie, c'est vous qui allez suivre ce procès où comparaissent l'université, mais aussi les trois principaux organisateurs de cette soirée. D'abord, rappelez-nous ce qu'il s'est passé le soir de ce 8 juillet 2021.
Eh bien, c'est en plein milieu de la nuit, ce soir-là, que Simon, 19 ans, meurt percuté par un camion alors qu'il marchait à pied sur l'autoroute, totalement alcoolisé. Et quelques heures plus tôt, le jeune homme fraîchement admis en deuxième année de médecine à Lille avait participé à une soirée d'intégration pendant laquelle il a été incité à boire de l'alcool à outrance dans le cadre d'un pseudo-rite de passage. Un bizutage pour lequel trois organisateurs de cette soirée sont aujourd'hui poursuivis devant le tribunal de Lille.
Ce que dénonce la famille du jeune Simon, c'est le manque d'encadrement de la part de la fac, dont l'inaction avait d'ailleurs déjà été pointée, Julie, par une enquête administrative accablante.
Oui, une enquête menée en 2022 par l'inspection de l'éducation nationale qui conclut que l'université de Lille n'a pas cherché à mettre fin aux pratiques de bizutage dont elle avait pourtant connaissance, mais que par son absence d'encadrement, elle a au contraire, je cite, « contribué à leur pérennisation », dénonce Daniel Guermont-Pré, père de l'étudiant décédé.
L'université et la faculté de médecine, où ils disent toujours le même langage, on n'est pas concerné, ce sont des soirées privées, cela ne nous concerne pas. S'ils faisaient simplement ce travail-là de prévention, en recevant les organisateurs, leur donner toutes les règles de sécurité, leur dire ce qu'est le bizutage, et les accompagner pour leurs événements.
Alors si la fac de Lille assure aujourd'hui mettre en place des actions de sensibilisation contre le bizutage, le père de Simon, lui, milite pour qu'une loi soit adoptée pour rendre obligatoire la prévention et l'encadrement autour des soirées étudiantes dans toutes les universités.
Julie Brault du service police-justice d'RMC en direct de Lille ce matin. Il est 7h37, faut-il brider la vitesse maximale des voitures citadines pour faire baisser leur prix d'achat? C'est la proposition pour le moins surprenante du directeur de Fiat, 120 km/h maximum, car rouler plus lentement nécessite moins de technologie, mais les automobilistes ne sont pas tout à fait convaincus, Cassandre Brault.
Conduire une voiture bridée, c'est difficilement envisageable pour ces automobilistes.
118 km/h, c'est pas très pratique sur l'autoroute, quoi.
Ça vaut le coup si on est en ville. Mais si on fait beaucoup d'autoroutes comme nous, c'est compliqué.
Ça pourrait être un peu dérangeant, sincèrement, sur du longue route.
Seulement trois modèles de citadines seraient concernés. Michel, lui, est plutôt emballé.
Si vous êtes en ville, pourquoi pas, bien sûr. On n'a pas besoin, effectivement, de dépasser en règle générale, par exemple à Paris, les 50 km/h, voire les 30.
Selon le PDG de Fiat, les systèmes d'aide à la conduite ont fait grimper le prix moyen des petites voitures de 60% en 5 ou 6 ans. Un constat partagé par Guillaume Crunel, associé responsable du secteur automobile chez Deloitte.
L'électronique et la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux dans un véhicule.
Des équipements imposés par la réglementation européenne, mais peut-on vraiment s'en passer? Oui, mais sous certaines conditions, selon lui.
Si vous avez une voiture qui est majoritairement citadine, alors elle n'a pas besoin de pouvoir rouler beaucoup plus vite, alors elle n'a pas besoin de tout l'équipement qui lui permet de rouler en sécurité beaucoup plus vite.
Une proposition nouvelle de la part d'un constructeur automobile, mais qui aura, selon lui, du mal à convaincre les consommateurs.
7h38 en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut se rapprocher de la qualification directe en huitième de finale ce soir à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal. De son côté, Monaco affronte le Real Madrid de Kylian Mbappé. Coup d'envoi des deux matchs à 21h à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Pau.
Et voici notre pronostic du jour. Le favori, c'est le numéro 5, Gardons le sourire. L'outsider, c'est le 9, Gallo du large.
C'était le journal d'Élise Dangean. Élise, justement, vous le disiez à l'instant, on l'a appris à 6h ce matin, Donald Trump qui menace d'augmenter de 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. On est en ligne avec Jean-Marie Fabre, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des vignerons indépendants. Comment réagissez-vous ce matin?
Bonjour. Écoutez, vous savez, on n'est pas à une menace près, on a l'habitude.
de ce que le président américain a aujourd'hui comme stratégie en matière de guerre commerciale, et chaque fois qu'il est perturbé sur un sujet géopolitique, on le voit bien au Groenland, on le voit aujourd'hui sur le Conseil de la paix, et bien en permanence il brandit des menaces qui vont toucher et faire mal dans les secteurs économiques des pays concernés. Donc aujourd'hui, le secteur des vins et spiritueux reste pour la France un des trois secteurs de performance stratégique avec l'aéronautique et le luxe. Et donc le président américain utilise son arme favorite, la menace, la peur. Et je crois qu'il fait là, en l'occurrence, une démonstration que chaque fois qu'on est faible face aux États-Unis, eh bien en permanence, on se retrouve sur la menace qui est la sienne.
Alors, deux questions, effectivement, quelles réponses on doit apporter, mais d'abord, est-ce que cette menace, vous la prenez au sérieux? C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à présent, les menaces de Donald Trump, qui ciblaient en particulier les vins et spiritueux français, sont entrées à exécution? Finalement, on ne sait plus à force.
C'est vrai qu'on ne sait plus, mais on a quand même un peu d'expérience maintenant. Souvenez-vous, 2020, il avait menacé et appliqué 25% de droits de douane sur les vins et spiritueux français. Je rappelle que c'est le premier pays consommateur au monde et la France y réalise son plus gros chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros, et nous avions perdu l'équivalent de 20% de notre commercialisation en un an. Et puis, il y a eu mars 2025, souvenez-vous, déjà 200% de droits de douane étaient brandis. Bon, tout ça a fini par 15% aujourd'hui de droits de douane pour l'importation de nos produits, et c'est de nouveau une perte de compétitivité. Donc, bien sûr que c'est récurrent chez lui et qu'on ne sait jamais où ça va arriver, mais les marchés, nos importateurs, nos distributeurs et nos entreprises ne peuvent pas en permanence être sous la coupe, sous la menace de cette fluctuation
de marché. Vous êtes désormais la variable d'ajustement du droit international ou du non-droit international, en quelque sorte, en l'occurrence. Jean-Marie Fabre, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes adapté, c'est-à-dire est-ce que vous essayez de trouver des marchés autres en vous disant on ne peut pas compter sur l'Amérique?
Alors non, on pense que l'Amérique continue à rester un marché central. Bien évidemment qu'il faut expertiser et pouvoir se développer dans d'autres zones du monde. C'est le cas en Afrique, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Amérique du Sud, c'est le cas en Asie du Sud-Est. Mais tout ça ne se fait pas aussi simplement et on ne se substitue pas à un marché de 4 milliards en claquant des doigts. Mmh. Et en même temps, on sait aussi que montrer de la faiblesse sur le marché américain, c'est demain s'exposer sur d'autres marchés. Donc on ne peut pas s'habituer et s'accoutumer à être en permanence soumis à ce type de variation. Bon, à côté de ça, on appelle malgré tout le gouvernement français au premier chef et la Commission européenne au second chef. Mais enfin, une bonne fois pour toutes, d'arrêter d'être en permanence à ce niveau de faiblesse et de faire porter sur notre secteur la totalité des difficultés économiques qu'il aura à assumer, parce qu'à un moment donné, un bras de fer politique sera mené par l'administration américaine. Je crois qu'à un moment donné, il faut purger une bonne fois pour toutes cette position-là et faire comprendre à notre premier fournisseur, n'oublions pas que l'Union européenne est le premier client des États-Unis, bien qu'il a beaucoup plus à perdre que nous si à un moment donné on applique aussi
montrer aussi que nous on peut montrer des muscles et que en quelque sorte les entreprises américaines elles-mêmes auraient trop à perdre dans ce jeu-là s'il se poursuivait. Merci Jean-Marie Fabre d'avoir réagi donc à cette information de la nuit à l'aube ce matin. Emmanuel Macron qui d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même avait écrit juste avant à Donald Trump pour lui proposer de dîner ensemble, voire même d'organiser un G7. Je disais tout à l'heure que les textos avaient fuité. Ces textos, ils ont fuité parce que c'est Donald Trump lui-même qui a fait une capture d'écran des textos d'Emmanuel Macron et qui les a mis sur les réseaux sociaux. On y revient tout au long de cette édition, 7h43 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque dans un Parlement qui fonctionne, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition.
Oui, ça c'était en octobre dernier. Depuis, les choses ont bien changé, puisque ce 49-3, il va bel et bien être activé, et ce, dès aujourd'hui. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes politologue et avec vous, on va comprendre les conséquences de cette décision du chef du gouvernement. Ça commence aujourd'hui par un premier 49-3, mais il y en aura d'autres, vous allez nous le dire. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à l'écoute d'RMC, 7h47. Alors, faute de compromis, il y aura un 49-3. Le Premier ministre qui avait dit qu'il voudrait faire 100, qui s'était même engagé à ne pas utiliser le 49-3, il sera finalement dégainé dès cet après-midi. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Politologue, maître de conférence en droit public à l'Université Paris Panthéon Assas. Ça va marcher? Comment? Cet après-midi, 49-3, mais on nous dit déjà qu'il y en aura 3.
Oui, il y en aura forcément trois, parce que il faut bien comprendre, un budget, c'est un peu compliqué. Vous avez une première partie, c'est les recettes. Vous avez une seconde partie, c'est les dépenses. Donc déjà, là, on est en nouvelle lecture. Autrement dit, on relit le texte. Il va falloir un 49 à 1,3 cet après-midi sur la première partie, la partie recettes. Un deuxième sur la deuxième partie et l'ensemble du texte. Puis ensuite, c'est pas encore l'adoption totale du texte. Le texte, il va repartir au Sénat et il va revenir à l'Assemblée pour donner à l'Assemblée ce qu'on appelle le dernier mot. Et donc là, il faudra un nouveau 49 à 1,3 parce qu'il faudra un nouveau vote, 1, 2, 3, 49 à 1,3.
Benjamin Morel, le Premier ministre Sébastien Lecornu parle d'un sabotage de la part de LFI et du RN. Est-ce que c'est une mauvaise excuse? Est-ce qu'il dit, c'est de leur faute, c'est pas de la mienne? Ou est-ce que vraiment RN et LFI ont tout fait pour saboter ce budget?
C'est plutôt une mauvaise excuse, parce qu'en réalité, on savait très bien que le RN et la FI n'allaient pas voter le budget. On savait que c'était des opposants et que ces opposants-là, jamais ils ne rentraient dans une discussion, une collaboration avec le gouvernement. Seulement, pour arriver à faire passer ce budget, il fallait trouver un accord qui aille à minima des LR aux socialistes, voire même à une partie des écolos. Ça, Sébastien Lecornu n'a pas vraiment su le construire. Et sans doute, est-ce que c'était impossible à construire sur un PLF? Mais il ne va pas accuser ceux qui sont ses partenaires et qui ne vont pas le censurer de ne pas avoir été assez coopératif. Donc il trouve ceux qui, au bout du compte, ne s'accorderont jamais avec lui, et il fait reposer la faute sur eux.
En fait, c'est un peu le bouc émissaire, quoi. Ceux qu'il rend responsable de ses propres échecs. Benjamin Morel, une question encore sur le calendrier. On a bien compris qu'il y aurait ces 3, 49-3. C'était censé être ce qui permettait d'en finir avec ce budget, mais la réalité, c'est que le budget ne sera pas entré en application avant la mi-février, voire même la fin du mois de février?
Il va falloir attendre quelques semaines. Donc là, on va avoir un 49 à 1,3.
Donc c'est toujours pas fini, cette histoire?
C'est pas fini. On va avoir un 49 à 1,3 annoncé cet après-midi. Il y aura sans doute une motion de censure vendredi, notamment. Et ensuite, vous aurez un deuxième 49 à 1,3, une nouvelle motion de censure. Tout ça, cette première séquence, se finit en début de semaine prochaine. Le texte, c'est son petit tour au Sénat. Combien de temps est-ce que ça prendra, le Sénat? Est-ce que le Sénat rejettera?
Est-ce que le Sénat peut jouer les prolongations?
Oui, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, c'était un élément de langage du gouvernement en disant le Sénat va nous embêter, ça va durer des plombes.
Oui, hier, etc. Moi, j'ai rien compris. D'ailleurs, Amélie Montchalin m'a joué la carte de maintenant, notre vrai ennemi, c'est le Sénat. Non. Bon, en fait, non.
Si le Sénat veut faire comme il a fait sur le PLFSS, c'est-à-dire rejeter d'emblée le texte pour que ça aille plus vite, il peut. S'il veut faire durer, il peut faire durer. Mais quand on dit faire durer, c'est une semaine et demie, pas plus.
On n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire, pour cette histoire de budget.
Exactement. Et donc ensuite, le texte, quoi qu'il arrive, il revient à l'Assemblée. Vous donnez le dernier mot à l'Assemblée. Et si vous avez toujours une majorité de non-censure dans 3 semaines, eh bien à ce moment-là, c'est bon, le budget est définitivement adopté. Le Sénat n'est clairement pas un obstacle.
Merci Benjamin Morel de nous avoir vraiment expliqué et tenu la main aussi dans ce nouveau processus. Donc 49-3 à partir d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme. C'est aux éditions Passé Composé. 7h50 pendant ce temps-là, la voix de gauche d'RMC, Cécile Duflot, vient d'entrer dans ce studio. Cécile, les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation doivent faire leurs vœux sur Parcoursup. Pour vous, il faut en finir avec cette machine à broyer des ados. Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec Bruce Springsteen qui s'attaque frontalement à Donald Trump.
Lors d'un concert caritatif, avec des mots extrêmement durs, le rocker américain était chez lui dans le New Jersey et il a notamment repris un de ses tubes. The Promised Land, chanson qu'il a dédiée à Renée Nicole Good, militante politique abattue au volant de sa voiture par un agent de la police de l'immigration, ICE, cette police fédérale qui cristallise les débats aux États-Unis, et cette mort qui est à l'origine de nombreuses manifestations ces derniers jours. Bruce Springsteen, sur scène, a dénoncé, je cite, « l'invasion des villes américaines par des troupes fédérales lourdement armées et masquées utilisant des tactiques dignes de la Gestapo ». Ce sont ces mots « contre les citoyens américains », dit-il. Springsteen, qui s'était déjà opposé à Reagan ou à Bush en son temps, mais qui est aujourd'hui un farouche opposant à Donald Trump, qu'il qualifie de tyran quand le président lui appelle Bruce Springsteen un débile.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
53 sur RMC et RMC Story, c'est le jour de la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, depuis hier, 650 000 lycéens de terminale et étudiants en réorientation peuvent faire leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. C'est une machine à broyer les ados, voilà ce que vous nous dites.
Oui, je pense que maintenant on a un petit peu de recul et les chiffres sont terribles. Hein. Plus d'un quart des 18-24 ans souffrent de troubles dépressifs ou de troubles anxieux. Un un quart d'une génération. Et c'est la même qui est à quasi 100% concernée par Parcoursup. Donc je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur d'autres problèmes de Parcoursup dont on parle pas.
Lesquels?
Ben, les problèmes de la machine à créer de l'anxiété, parce que c'est un système qui a été conçu pour en fait faire gare de triage des futurs étudiants, mais la manière dont il est designé, c'est une boîte noire. En fait, on sait pas, on rentre dans Parcoursup, mais on sait pas du tout ce qui s'y passe, on sait pas quel est l'algorithme, on sait pas quels sont les critères d'analyse, il y a des dates à pas rater. On crée une peur de l'échec terrible chez jeunes, avec une réalité, hein, puisque en 2025, il y avait plus de 103 000 candidats qui n'avaient pas d'affectation. C'est plus de 1 jeune sur 10. Donc vous imaginez la quantité de stress individuel multiplié par toutes ces personnes. Et puis ça change aussi les années lycées. Les années lycées qui sont des années où quand même normalement on devrait un peu profiter de la vie. Bah, en fait, chaque DS de maths ou d'éco, ça vous met une sorte d'épée de Damoclès sur la tête. Et puis... les profs remplissent un document qui s'appelle la fiche avenir. Et ça aussi, c'est, pour certains, c'est un outil de chantage, c'est un outil de pression. Bref, ça pervertit les années lycées.
Avec une angoisse, effectivement, dès la seconde, hein, puisque les notes sont parfois prises en compte dès ce moment-là. Pour vous, c'est un système qui entraîne des inégalités d'accès au monde et à l'avenir.
Oui, parce qu'en plus, c'est vendu comme un système qui vise à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On fait même des lettres de motivation, mais on a vu que ces lettres de motivation, parce qu'une jeune lycéenne avait écrit une recette de cuisine, sont pas lues, alors qu'elle avait été prise, sont pas lues. En revanche, il y a des business qui se mettent en place pour aider, soi-disant, les parents, avec des tarifs, j'ai trouvé sur Internet, 450 € pour une lettre de motivation complexe, 250 € pour une lettre de motivation standard, ça devient complètement fou. Et qu'est-ce que ça veut dire, une lettre de motivation à 17 ans? Est-ce qu'on peut se regarder tous, se souvenir de où on était à 17 ans? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire exactement de sa vie? Et puis, ça a un effet paradoxal terrible, le développement de l'enseignement supérieur privé. Plus 77% d'élèves
Parcoursup,
exactement, qui vendent dans les salons étudiants l'idée que bah, vous dispenserez du stress de Parcoursup en allant dans l'enseignement supérieur privé, mais en payant. Donc une vraie inégalité d'accès.
Alors on fait quoi?
Ben, je pense que il faut quand même se poser la question de ce qui fonctionnait avant. Avant, il y avait un système qu'on trouvait aussi pas bon qui s'appelait APB, mais encore avant, quand il y avait trop d'étudiants, on tirait au sort. Ben, je vais vous dire, à la réflexion, le tirage au sort, il est moins anxiogène que le fait d'avoir le sentiment que vous êtes jugé sur des critères que vous connaissez pas. C'est-à-dire que vous savez pas du tout si vous avez bien fait ou mal fait. On s'est rendu compte que, par exemple, les conseillers d'orientation conseillent aux futurs étudiants en droit un certain nombre d'options au lycée, parce que ça va de pair avec la réforme du lycée. Mais en fait, les profs d'université qui décide des critères avait mis dans certaines universités le critère mathématique. Et tous ceux qui n'avaient pas fait de maths, alors qu'on leur avait dit que c'est pas ça qu'il fallait faire pour faire des études de droit, se sont fait shooter de l'algorithme. Donc il faut à minima une transparence totale sur les critères qui sont entrés pour sélectionner les futurs étudiants.
Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC tous les mardis avec nous. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, Donald Trump qui annonce ce matin vouloir taxer à 200% les vins et les champagnes français. C'est donc l'information de la matinée. La météo, beaucoup de pluie en Bretagne, un peu moins ça se calme du côté de la Méditerranée. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie. Avec vous, Pierre Rondeau, l'épargne des Français qui se porte bien.
Oui, les Français mettent en moyenne 470 € de côté par mois. Mais attention, il y a des disparités.
7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59 et c'est encore très agité du côté du ciel géraldien.
Oui, alors particulièrement, ça va être le cas sur la Bretagne aujourd'hui. Vigilance orange sur le Finistère et le Morbihan pour des pluies qui vont arriver dans le courant de la journée. Et on reste quand même aussi en vigilance orange pour les crues des basses plaines de l'Aude. Il pleut encore pas mal hein, ce matin du côté de l'Occitanie, du côté de la Corse aussi. Ça va se calmer progressivement dans la journée. Attention au risque d'avalanche qui reste quand même très marqué hein, sur la Corse. Et puis donc, ces fortes pluies qui vont arriver en Bretagne avec beaucoup de vent. Ailleurs, ce sera plus calme. On aura même des éclaircies vers l'Atlantique, mais aussi vers l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à la Côte d'Azur. Température toujours très contrastée entre le nord-est, où il fait froid, et l'ouest, où il fait beaucoup plus doux. On aura 2 degrés seulement à Nancy et Strasbourg cet après-midi, 5 à Lyon, 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Bordeaux, 16 pour Marseille ou Nice.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump fait du Donald Trump plus que jamais ce matin avec des sorties fracassantes. Il s'en prend, vous allez l'entendre, à Emmanuel Macron. Il menace la France de nouveaux droits de douane de 200% cette fois sur le vin et le champagne. Et il révèle des messages échangés avec le président français. On va prendre le temps de tout vous détailler. Nouvelle manifestation des agriculteurs aujourd'hui autour du Parlement européen de Strasbourg. Barreau d'honneur contre le Mercosur. Et puis début de 3 jours de deuil national en Espagne qui cherche toujours à comprendre ce qu'a provoqué la terrible collision entre 2 trains, collision qui a fait 40 morts.
Il faut s'accrocher pour suivre toutes les sorties de Donald Trump qui, ce matin, menace à nouveau la France.
Oui, le président américain a pris la parole avant de monter dans l'avion pour se rendre au Forum économique de Davos qui commence en Suisse aujourd'hui. Romain Houg, on va prendre le temps de tout détailler avec vous ce matin sur RMC. Il est visiblement très en colère contre la France qui contrarie ses plans puisque Donald Trump a une nouvelle idée en tête, c'est de créer un conseil de paix pour concurrencer les Nations Unies.
Oui, en fait, ce serait une instance de gouvernance internationale pour gérer les conflits et les affaires du monde, un peu comme un ONU bis, mais présidé par Donald Trump. Pour qu'un État puisse y siéger de manière permanente, c'est simple, c'est à la Trump, il suffit de débourser 1 milliard de dollars. Alors, de nombreux pays ont reçu une invitation à rejoindre ce conseil, dont la Russie, de Vladimir Poutine. Certains, comme le Maroc et la Hongrie, ont déjà accepté. D'autres sont plus réticents, c'est le cas de la France. Emmanuel Macron a décliné et rappelé son attachement à la Charte des Nations Unies. Réaction immédiate de Donald Trump cette nuit. Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra. Ce matin, l'entourage d'Emmanuel Macron évoque des menaces jugées inacceptables et inefficaces. Les acteurs de la filière viticole, eux, se réveillent en tout cas inquiets. Jean-Marie Fabre, président de la Confédération des vignerons indépendants, était sur RMC il y a quelques minutes et il l'explique. À chaque fois que les États-Unis ont appliqué des droits de douane sur la filière, directement, les ventes ont chuté de 15 à 25%. Nos entreprises ne peuvent pas être en permanence sous la menace de Donald Trump, ajoute-t-il.
Alors, il y a le fond et puis il y a la forme aussi. Donald Trump déteste qu'on lui résiste à tel point qu'il publie sur son réseau social des messages échangés avec Emmanuel Macron. Et c'est peut-être bien une première entre deux dirigeants de grande puissance.
Oui, cet échange privé est réel, confirme l'entourage d'Emmanuel Macron ce matin. 2 messages envoyés donc par Emmanuel Macron. « Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland », lui écrit le président français, avant de lui proposer d'organiser un G7 à Paris jeudi après-midi. Donald Trump, de son côté, continue d'accentuer la pression sur les Européens au sujet du Groenland et assure qu'il ne résiste n'existeront pas à son projet d'annexion, comme l'illustre ce photomontage publié lui aussi il y a quelques minutes et sur lequel on le voit planter un drapeau américain sur le territoire groenlandais.
Voilà donc pour toutes les sorties fracassantes cette nuit signées Donald Trump. Voilà dans quel contexte commence le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron doit y passer la journée et Donald Trump y est attendu demain. Nous sommes au matin, ce mardi, d'une nouvelle manifestation de centaines d'agriculteurs à Strasbourg pour continuer le combat, tenter de bloquer le traité qu'on a avec le Mercosur. Ce qu'explique ce matin dans le journal Le Figaro, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, syndicat à l'origine de cette manifestation autour du Parlement européen. Donc, pourquoi cet endroit ? Eh bien, parce que les députés européens doivent voter et un vote majoritairement contre aurait pour effet, de geler le processus de ratification. C'est le dernier espoir, en fait, explique ce matin Gérard Laubert de la FNSEA. Écoutez-le dans le Bas-Rhin.
On a déjà une partie de députés qui sont d'accord avec nos positions. Et puis, il y a toute une autre partie qui se tâte, je pense. C'est ça aussi notre travail, de convaincre un maximum de députés qui voteront dans le bon sens, de telle façon à ce que cet accord qui est néfaste pour l'agriculture française, que cet accord-là soit stoppé. Il y a ce dernier jeu à jouer. En fait, c'est cette pression qu'on veut mettre et c'est cette attente que nous avons, que les députés nous soutiennent dans cette protection de notre agriculture telle qu'on la connaît.
Alors, puisqu'on parle du Parlement européen, ce sont 2 journées très importantes qui commencent là au procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Marine Le Pen sera interrogée aujourd'hui et toute la journée de demain. Guillaume Bier, chef du service police justice à RMC, c'est vous qui allez suivre ces audiences. On sait que Marine Le Pen a légèrement infléchi sa stratégie de défense par rapport au premier procès, mais c'est quand même loin d'être gagné pour elle.
Effectivement, même si elle se montre moins frontale avec les juges et même si elle fait un pas vers l'accusation en reconnaissant à demi-mot qu'un délit a pu être commis, Marine Le Pen en conteste fermement le caractère intentionnel, comme ses coprévenus qui répètent ne pas avoir eu le sentiment ou la conscience d'être en infraction. Une stratégie qui vise à espérer une condamnation moins lourde, mais qui risque de se heurter aux multiples éléments à charge de ce dossier. Les directives de Marine Le Pen, les réunions, les échanges de courriels, les tableaux de financement des salaires de certains cadres du parti déclarés comme assistants européens. Bref, l'existence d'un système tel qu'il est reproché à Marine Le Pen et dont elle va une nouvelle fois se défendre face à une présidente de la Cour d'appel très pointu sur le dossier et qui ne laisse rien passer.
C'est cet après-midi que Sébastien Lecornu va finalement dégainer le 49-3 pour faire passer en force donc la partie recette du budget. Il sera sûrement amené à le faire à deux autres reprises, concédant à la fois un semi-échec et un semi-succès. Donc sur sa méthode, le RN et les Insoumis vont déposer des motions de censure. Le socialiste Olivier Faure confirme ce matin que son parti ne les votera pas. Pendant ce temps, c'est le projet de loi sur la fin de vie qui arrive enfin au Sénat, quasiment un an après son adoption à l'Assemblée. Le texte est divisé en deux, c'est une promesse, un engagement d'Emmanuel Macron. Les sénateurs comptent réécrire en profondeur la version des députés pour restreindre au maximum l'accès à l'aide à mourir. Vous allez tout nous expliquer, Solène Leroux. Là où les députés ont voté pour un droit à l'aide à mourir, les sénateurs veulent plutôt une assistance médicale à mourir.
Cette assistance médicale à mourir serait réservée aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le temps d'étudier la demande, le malade sera peut-être déjà mort en souffrance, insurge Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
On pourrait se dire, enfin le Sénat concrétise le fait d'une aide à mourir, oui, mais dans une loi qui est rendue totalement inapplicable. Donc finalement, ce texte du Sénat ne sert absolument à rien.
Au contraire, assure le docteur Ségolène Perrucchio, ce changement de terme va plus loin car il valide le principe d'un suicide assisté. Elle est présidente de la Société française des soins palliatifs.
Le Sénat inscrit encore plus le texte dans les pratiques de soins, dans la banalité du quotidien, de la relation soignant-soigné. On voit un Sénat qui fait totalement la sourde oreille à ce que disent la grande majorité des soignants. Donner la mort n'est pas un soin.
Défenseurs comme opposants, aussi insatisfaits soient-ils de ce texte, appellent à un débat le plus serein, apaisé possible, dans l'intérêt de patients qui attendent cette loi depuis des années.
Je vous le disais, 3 jours de deuil national commencent ce matin en Espagne, au surlendemain de la collision de train qui a fait 40 morts et plus de 120 blessés dans la région de Cordoue, en Andalousie. La famille royale espagnole sera sur place aujourd'hui. C'est là que vous êtes, Rachel Sadodine, envoyée spéciale de RMC en direct ce matin. On cherche toujours à comprendre ce matin ce qui s'est passé.
Oui, déjà, ce n'est pas un problème de vitesse. Les deux trains roulaient en dessous de la limitation fixée à 250 km/h sur cette portion. Ensuite, le président de la RENFE, la compagnie ferroviaire espagnole, l'affirme, l'erreur humaine est pratiquement écartée. Reste donc la question de l'infrastructure. Cité par le journal espagnol El Mundo, des techniciens travaillant sur les lieux du sinistre à Adamus estiment qu'une rupture de la soudure du rail pourrait être une cause très probable du déraillement. Seulement voilà, selon le patron de la RENFE, la voie a été réparée en mai dernier. Compliqué de comprendre ce qui aurait pu donc causer une défaillance. Le train qui a déraillé était lui presque neuf, ce qui rend cet accident extrêmement étrange, de l'aveu même du ministre des Transports. Le gouvernement espagnol a promis aux familles de victimes une transparence absolue, elles qui pour beaucoup attendent toujours d'être fixées sur le sort de leurs proches. 43 signalements pour disparition ont été enregistrés. Je me trouve ce matin devant un centre où les familles de victimes ont pu passer la nuit, soutenues par des psychologues de la Croix-Rouge, pendant que des secouristes tente encore de dégager des corps des trains accidentés à Adamus.
Et puis je vous signale qu'il y aura 2 matchs de foot ce soir sur RMC. Paris-Monaco en Ligue des Champions, 21h. Le coup d'envoi, c'est l'avant-dernière journée de la phase de poule. Le PSG à Lisbonne chez le Sporting et Monaco à Madrid contre le Real.
C'était le journal de Quentin Vigne à 8h09 sur RMC. C'est l'heure de parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Pierre Rondeau, on connaît l'épargne des Français et le niveau d'épargne est plutôt bon.
Oui, cette étude réalisée par la néobanque Gringotte et relayée par Moneyvox établit un niveau moyen d'épargne annuel de 5 650 €, soit 470 € épargnés chaque mois. Au total, l'épargne financière des Français atteint la modique somme de 6 477 milliards d'euros, une somme très importante, deux fois supérieure à celle de la dette publique, qui illustre surtout un sentiment d'incertitude et de crainte craintes vis-à-vis de l'avenir, c'est parce que les Français ont peur qu'ils mettent de côté.
Ça paraît énorme en réalité, 470 € par mois. C'est une moyenne, il y a des disparités.
Évidemment, hein, c'est une moyenne. Hein, évidemment qu'il y a des très grandes disparités, surtout entre les territoires, entre les métropoles où l'épargne moyenne mensuelle se fixe à 597 € et dans les zones rurales avec une capacité d'épargne de 346 €. Rien qu'à Paris, on épargne 625 € par mois en moyenne, hein, surtout parce que les revenus et la capacité d'épargne sont plus élevés qu'ailleurs. Hein. Par exemple, province Alpes-Côte d'Azur, l'épargne moyenne se monte à 458 €, plus qu'en centre Val-de-Loire ou en Normandie, avec une épargne moyenne de seulement 350 €.
On peut retenir globalement que l'épargne financière reste élevée. Hein.
Oui, hein, ça reste très élevé, hein, surtout du côté des produits financiers très spécifiques, comme l'assurance vie, le plan épargne retraite, le PER, ou le plan épargne action, le PEA, qui voient leur versement augmenter en 2025. Mais je vais très certainement vous énerver, Apolline. Ces produits, contrairement au livret A ou au livret jeune, ne sont pas exonérés de ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, CRDS, CSG. Et le budget 2026, qui passera par l'utilisation du 49.3, a intégré une augmentation de ces prélèvements sociaux sur les revenus du capital PER, PEA et l'épargne financière. Globalement, les prélèvements sociaux vont passer de 17,2 à 18,6% et la flat tax, la taxe sur les revenus du capital, passe de 30 à 31,4%. Donc voilà, pour résumer, les Français épargnent de plus en plus et ils sont taxés de plus en plus. C'est merveilleux.
C'est en fait la logique très française.
Voilà.
Merci Pierre Rondeau, 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, notez-le, c'est le député RN de la Somme, le monsieur budget du RN, Jean-Philippe Tanguy. Et juste après, comme chaque matin, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup, 8h50 sur RMC. Restez bien avec nous, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC et RMC Story. Et Arnaud Demanche déboule en courant dans ce studio. Salut Arnaud.
Oui, parce qu'on plaisante dans les couloirs. Voilà, et après, il faut quand même faire le travail. Bonjour. D'autant qu'on a une mauvaise nouvelle ce matin. Hein? Ça y est, on va avoir un budget. C'est fini cette grande saga que nous peignons avec malice, vous et moi, Pauline, chaque matin. Terminé les chroniques de Budget Stone, cette série où chaque épisode était plus chiant que le précédent.
Dans le dernier épisode des chroniques de Budget Stone, Sébastien Lecornu a annoncé faire passer le budget par 49.3. Il retrouve son amie Elisabeth Borne à la buvette de l'Assemblée.
Bonjour Elisabeth. Salut pauvre naze. C'était bien la peine de nous emmerder, hein. 6 mois de négo et de baissage de froc devant le PS, tout ça pour faire un 49.3. J'aurais pu le faire moi-même. Bravo champion.
Et oui, elle tire sur sa clope. Parce que Sébastien Lecornu a fait beaucoup de concessions au Parti Socialiste pour éviter la censure. Il a été très ferme. Il leur a dit, puisque c'est comme ça, vous l'aurez voulu. Vous allez voir, je cède sur tout. Voilà. La prime d'activité pour les bas salaires, le repas à 1 € pour les étudiants. Alors les socialistes, ils se sont dit, il y a forcément un piège, ils bluffent ce con. Et Lecornu a insisté, eh ben en prime, je vous offre un café. Même quand ils étaient au pouvoir, le PS proposait pas de budget aussi à gauche. Bref, Lecornu a fait plein de cadeaux aux socialistes pour les séduire. C'est un peu un sugar daddy pour les socialistes. Vous savez ce que c'est un sugar daddy? C'est un vieux qui couche avec des petites jeunes en échange d'un sac Chanel. Voilà. C'est une sorte de pédophile, mais pas radin.
Ah,
c'est pas trois bonbons et une camionnette, quoi. On met un peu des effets. Moi, je rêverais d'avoir un banquier comme Lecornu qui me téléphone en disant « Oui, monsieur Demanche, je vous appelle pour votre découvert. » Oh! Tu me parles pas comme ça, hein, sinon je change de banque. Oh, pardon, monsieur Demange, excusez-moi, ne vous inquiétez pas, je rembourse tout de ma poche. Voilà, et on vous offre une carte cadeau de 500 €. C'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. C'est mieux
c'est
comme
vrai
ça.
Que c'est mieux. Pour le Parti Socialiste. Donald Trump a écrit une lettre au Premier ministre norvégien, et dedans, il explique qu'il veut prendre le Groenland parce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix.
Je suis débile, y a pas d'erreur.
C'est une vraie chanson, c'est pas de l'IA. On se dit que l'Europe contre Trump, c'est David contre Goliath. En fait, c'est contre Gogoliath. Là, ça devient pathétique, débile, cette lettre. Il s'est passé d'ailleurs avec un truc marrant, avec le président des Trumpistes de France, Nicolas Conquer. Je sais pas si vous avez vu. Au début, il a vu ça. Il a vu que c'était complètement con. Donc, il a tweeté Hallucinant, cette prétendue lettre de Donald Trump à la Norvège. Tout dans cette histoire flaire le faux à plein nez. C'est de l'IA, le niveau est abyssal. Et comme prévu, des médias vont tomber dans le panneau. Et quand il s'est rendu compte que c'était vrai, il a écrit « Je reconnais avoir douté ». Mais après lecture attentive, rien ne me choque. Je souscris à tous les points.
Mais
voilà. Le jour où Conker va rencontrer Trump, Trump il va faire.
Oh, oh, une serpillière, c'est formidable, je suis ravi.
Emmanuel Macron se montre très offensif face à Donald Trump sur la question du Groenland. Hein.
Oui. Oui, ce week-end, moi j'ai vraiment cru qu'Emmanuel Macron s'était battu avec Donald Trump, avec son œil là, enflé et rougi. Il doit rien voir avec ça. On le savait sourd aux demandes des Français, mais aveugle, ça c'est nouveau. Si ça se trouve, ça fait longtemps. Il est là. Importez-moi les résultats des dernières législatives. Ah bah super, le centre a gagné. Je nomme Bayrou.
Non, ah monsieur le président,
c'était pas pour ça. Bref, Donald Trump nous menace. Alors ce matin, c'était de taxer les vins. Ce matin.
On a gagné.
On n'y voit rien. Ce matin, donc, Trump, il voulait taxer les vins à 200%. Sur CNews, ils en parlaient.
Ah oui.
Donald Trump veut taxer nos vins. Quelle est votre réaction, Elisabeth Lévy?
Eh ben moi, je suis patriote. S'il faut boire l'excédent, on boira l'excédent.
Notre président a demandé à l'Europe d'utiliser l'instrument anti-coercition. Alors ça, il paraît que c'est l'arme nucléaire économique. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais branchons-nous tout de suite sur BFM Business pour tout comprendre.
Banquier, bonjour. L'Union européenne examine son plan anti-coercition. Emmanuel Le Chypre, comment ça fonctionne? Allez, dépêche-toi, Chouminou, ta chronique. Mets bien ta cravate qui est si jolie.
Moumoune, on est à l'antenne. Alors, Edwige, l'UE sort sa grosse artillerie et s'apprête à mettre ses bourses dans la balance.
Et Emmanuel, la tension sur les marchés est si forte. Vous avez vu qu'à Davos, ça s'excite sur les plateaux d'émissions économiques. Tout le monde s'apprête à commenter la fessée qu'il faut le dire, certains méritent.
Oh oui, Edwige, la fessée que l'économie française peut mettre à ceux qui sont méchants.
Mais moi, je suis méchante parfois.
Oh Edwige, tout le monde va nous voir.
Mais non, grand bêta, viens. On est sur BFM Business, on s'en fout, personne regarde. Allez, fais sauter ma gaine. Tu as ton sécateur.
On va les laisser. Mais n'hésitez pas à vous informer sur BFM Business. C'est important de comprendre le monde d'aujourd'hui.
Ah non, on retrouve aussi en podcast. Je sais pas s'il faut le recommander. En tout cas, aux oreilles averties. Et en tournée partout en France, tiens, avec un nouveau spectacle à Reims, à Versailles, à Montpellier, à Toulon, à Épinal. Un spectacle RMC. Il est 8h20 et vous êtes nombreux à réagir à cette menace. Augmenter à 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Voilà la dernière trouvaille de Donald Trump. Bonjour David.
Oui, bonjour.
David qui est chauffeur poids lourd à Duranus dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes chez vous là?
Là, je suis dans Nice. Je suis au taf.
Voilà. Bon, vous êtes au taf, mais vous êtes au chaud. Comment vous réagissez à cette annonce de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux?
Ben, moi, je dirais faisons pareil. Hein. On est des gros consommateurs de produits américains. Pourquoi on ne ferait pas pareil?
On augmente à 200% les tarifs douaniers sur les produits américains importés.
On n'a qu'à faire pareil. Le problème, c'est que on a des dirigeants qui sont pas super courageux. Et au sein de l'Union européenne, on est divisé. Parce qu'on a chacun des intérêts différents. Donc j'ai peur que malheureusement, ça fonctionne pas. Mais pour moi, faisons pareil. Hein. Les vins et les spiritueux, ça va pas trop nous gêner. Hein. Les consommateurs américains qui achètent du vin et des spiritueux, c'est des gens riches.
C'est ça, ce que vous dites, c'est qu'au fond ils continueront à les acheter même avec des très gros droits de douane.
Exactement, donc faisons pareil, hein. Faisons la même chose, les fast-food, tous ces trucs-là. Ben, si vous voulez que ça reste en France, si vous voulez que les Français consomment, on augmente.
Mais est-ce que nous, on sera prêts à les acheter beaucoup plus cher? C'est aussi, évidemment, la conséquence et la question. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'avoir réagi sur RMC ce matin. Il est 8h22. On y revient, évidemment, largement sur ces annonces de Donald Trump avec mon invité dans un instant sur BFM TV et RMC. C'est le monsieur économie du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame de Valère.
Députée RN.
Bonne année encore,
tout à fait. Ne nous privons pas. Elle commence très fort quand même cette année, on peut le dire. Alors, il y aura sans doute un budget finalement. 49.3 aujourd'hui. Vous-même, vous êtes députée RN de la Somme, membre de la commission des finances. Le monsieur budget et économie du RN, je vais évidemment vous faire réagir à ce fameux budget qui atterrit donc aujourd'hui avec ce 49.3. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur les déclarations fracassantes de Donald Trump cette nuit, qui menace la France d'imposer donc des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette question-là? Et est-ce que notre économie, au fond, au moment même où on est en train de tenter de trouver un cadre budgétaire, n'est pas déjà fragilisée?
Oui, malheureusement, vous avez raison. Il faut prendre au sérieux ce que dit Donald Trump depuis le début. C'est vrai que le commentaire de la campagne de Donald Trump, de la première campagne, de la deuxième surtout, était assez consternant parce qu'au lieu de se préparer éventuellement à l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui voulait utiliser les droits de douane, qui voulait faire de la réelle politique la plus durement possible, on se retrouvait, il faut bien le dire, en tout cas le gouvernement de Monsieur Macron et le reste de l'Europe, désemparés face à quelqu'un qui assume des positions très dures pour ses alliés. Et on voit bien que ce sont parce que M. Macron, sur le cas du Venezuela, a été très complaisant et en tout cas n'a pas du tout défendu la tradition d'habitude de la France sur l'indépendance nationale, ça n'apporte aucun avantage. Hein. C'est-à-dire que se soumettre comme le Danemark, qui était un des alliés les plus alignés sur les intérêts américains depuis la guerre froide, ça ne lui a pas apporté d'une protection particulière.
Donc il faut faire
par rapport aux États-Unis.
Donc, il faut,
toujours défendre strictement ses intérêts, son indépendance et son honneur en politique internationale. Voilà, c'est-à-dire faire des compromissions en pensant que s'affaiblir ou s'appauvrir va vous donner des avantages, ça ne fonctionne pas. Donc il faut tenir. Il faut tenir et ça va sans doute effectivement être difficile pour une économie française qui a déjà des difficultés parce que je pense que Donald Trump, sauf si la Cour suprême intervient pour mettre fin à ses droits de douane unilatéraux, hein, et la décision est imminente du côté des États-Unis, il va falloir tenir parce qu'on ne va pas céder évidemment, on ne va pas s'abaisser.
Mais ça veut dire quoi tenir? Ça veut dire quoi tenir? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt, nous, à augmenter du même genre de proportion les droits de douane sur les produits que nous importons des États-Unis, quitte à ce que ça fasse monter l'inflation, parce qu'il faut quand même dire les choses.
Bien sûr,
fera monter l'inflation pour les consommateurs et les français.
Sur les importations américaines, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'inflation importée par rapport aux catégories de produits qu'on importe et aussi au bénéfice des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, le grand enjeu quand même de la balance commerciale États-Unis-France, c'est beaucoup de services numériques, beaucoup de logiciels, beaucoup de brevets, en fait, de valeurs intellectuelles. Au quotidien, vous ne consommez pas beaucoup américain, vous n'achetez pas beaucoup de Made in America. Voilà, vous allez peut-être consommer McDonald's et il y aura une licence, il y aura des royalties que McDonald's paie aux États-Unis, par exemple. C'est beaucoup, vous voyez, une forme d'immatérialité.
Mais alors, du coup, on fait quoi? C'est-à-dire que, vous dites, il faut tenir.
Déjà, vous me demandez, est-ce qu'il y aura de l'importation importée?
Si vous parlez de McDonald's, prenons l'exemple de McDonald's, évidemment emblématique, mais en même temps, la réalité, c'est que McDonald's en France, ce sont des entreprises françaises avec des patrons français, ce sont des franchises, ce sont des employés français. Est-ce que vraiment, on a les moyens de résister sans nous tirer à nous-mêmes une balle dans le pied?
Non, mais au contraire, finalement, parce que vous voyez, l'affaire de McDonald's, donc on verse des royalties essentiellement aux États-Unis. Et ben, c'était l'enjeu de la fameuse mesure de lutte contre la fraude fiscale qu'on nous a tout reproché là, que Madame de Montchalin, je l'ai encore entendu hier matin chez vous, nous a reproché d'avoir voté soi-disant une taxe de 16 milliards d'euros. Vous savez, bon, c'était pas une taxe, c'était une mesure de justice fiscale qui obligeait les entreprises américaines, les multinationales américaines à payer leur juste impôt en France. Or, elles s'organisent massivement pour ne pas payer leur juste impôt
L'idée
en France.
L'idée, c'est d'abaisser le seuil. Ce que vous avez voté, c'était un amendement de la France Insoumise avec l'idée de baisser le seuil de déclenchement de l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales.
Exactement. Parce qu'en fait, elles ne paient pas le même impôt que les entreprises françaises, grandes ou petites d'ailleurs. Donc si on applique, c'est même pas une mesure de rétorsion là, c'est juste la justice fiscale. Bon, on ne peut pas plus énerver les États-Unis. De toute façon, ils sont déjà sur une attitude hostile. Donc appliquons des mesures de justice. D'ailleurs, c'était prévu par les règles de l'OCDE. Donald Trump s'est retiré l'été dernier de ces règles de justice fiscale. Et il faut appliquer ces mesures parce que ce sera bénéfique en fait pour la France et pour l'Europe d'une manière générale. Elle doit se réarmer. Vous voyez bien que quand Mme von der Leyen va à Washington, fait un accord extrêmement défavorable à l'Europe, pardon, en pensant que faire plaisir aux États-Unis.
Vous parlez du Mercosur?
Non, là, vous savez, de l'accord commercial qui est allé négocier avec Mme von der Leyen, quand M. Trump a menacé déjà de rétorsion et de droits de douane extrêmement importants. Bon, Mme von der Leyen a été si faible sur les intérêts européens que l'accord que nous avons négocié était moins favorable que l'accord que la Suisse a obtenu. Donc si la Suisse, que je respecte énormément, mais qui est un petit pays avec une petite population, arrive à négocier un meilleur accord parce qu'il ne lâche rien par rapport à von der Leyen, c'est que la stratégie européenne envers les États-Unis.
Il faut sortir le fameux bazooka, comme on dit, c'est-à-dire ces mesures de rétorsion. Pour vous, vous y êtes favorable et il faut le faire vite.
Oui, il faut le faire vite. Oui, mais l'Europe ne sait pas agir vite, mais là, il faut le faire vite. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella sur le cas du Groenland. On ne peut pas laisser un de nos alliés se faire attaquer de cette façon. On ne peut pas laisser une part. C'est pas le territoire de l'Union européenne, mais c'est un territoire associé à l'Union européenne. Être voilà littéralement acheté ou littéralement envahi, même si c'est un allié, parce que ce sera une nouvelle étape dans ce nouveau désordre mondial où la loi du plus fort n'existe sans limite. Alors on va me dire oui, c'est naïf, il y a toujours eu la loi du plus fort. Oui, évidemment, moi je fais partie de l'école de la et le Rassemblement national fait partie de l'école de la réelle politique. On n'est pas iréniste, on ne croit pas que le droit résout toutes les solutions, mais le droit encadre la loi du plus fort, encadre les rapports de force et permet de réguler ce qui sinon ne l'est plus du tout. Il n'y a plus aucune limite. Vous voyez, ce qu'on dit le Venezuela, c'est normal de se débarrasser de Maduro, c'est un dictateur, c'est un salaud. Oui, bien sûr, c'est un dictateur et on est mieux sans lui qu'avec. Mais vous voyez bien que dès qu'on franchit une limite, tout tombe les uns après les autres et on se comporte avec le gentil Danemark comme ils se sont comportés avec le méchant Venezuela.
Jean-Philippe Tanguy, pendant ce temps-là, 49-3 cet après-midi, engagé par donc Sébastien Lecornu. Est-ce que vous vous dites quand même au fond de vous, enfin ?
Non, pas du tout.
Pas du tout,
parce que je comprends. Hein. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais venu juste la veille de Noël, j'avais alerté à ma petite place hein, les Français en disant la stratégie de M. Lecornu est de vous épuiser. C'est de vous fatiguer, c'est de fatiguer l'opinion publique, c'est de faire traîner les choses, parce qu'en fait, ils auraient pu s'arranger bien avant en commission mixte paritaire avec les socialistes, s'ils avaient voulu, pour que l'inacceptable devienne tolérable. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens, moi je comprends, hein, quand vous avez un métier, une famille, des obligations, des difficultés financières pour boucler les fins de mois, voir les politiciens qui s'agitent à Paris, qui chamaillent, vous dites une fatigue, on n'en peut plus. Et donc on finit par dire, bon allez, on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que on va voir la copie finale. Mais je suis sûr qu'il y aura des hausses d'impôts. Voilà, je ne vois pas comment c'est possible que les hausses d'impôts ne concernent que les multinationales. C'est ce qui s'est passé sur la sécurité sociale. On a dit, dormez braves gens, il n'y aura pas d'impôts sur l'épargne. Et puis on a appris d'ailleurs hier que le PER, le plan épargne-retraite, serait bel et bien taxé comme le Rassemblement national.
L'augmentation effectivement des taxes sur l'épargne des Français, notamment le plan d'épargne-retraite avec la hausse de la CSG notamment. Mais vous aviez dit, Jean-Philippe Tanguy, et je vous cite, hein, vous aviez dit, il n'y a pas d'avancée dans cette Assemblée vu le poids du RN sans qu'on les vote et sans qu'on les veuille. On fait concrètement avancer certaines promesses que les socialistes eux-mêmes n'auraient pas pu faire respecter sans nous.
Alors j'avais dit ça sur les retraites. C'est-à-dire que nous, les retraites, on avait un engagement. On ne va pas se dédire. Nous, si on peut gagner des mois de vie et de retraite pour des gens qui travaillent dur, on ne va quand même pas le saboter.
Il y a eu des moments où ça vous arrangeait finalement que les socialistes poussent.
Non, ce n'est pas que ça nous arrange, c'est que c'est concomitant. On va pas, dire le contraire de ce qu'on dit aux élections pour embêter les socialistes. Sauf que nous, on ne voulait pas que ce soit payé par du déficit ou par des impôts. Voilà, on a proposé des économies. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur.
Mais les entreprises,
nationale.
Pour vous, c'était OK. Parce que on a effectivement parlé de cet impôt sur le bénéfice des multinationales que vous avez contribué à augmenter. C'était un amendement pourtant qui venait de la France insoumise. Pareil pour un amendement sur les rachats d'actions. Là, pour le coup, c'était de votre côté. Ça avait fait hurler les entreprises. Un autre amendement du groupe LFI également qui instaurait, je cite, une taxe exceptionnelle sur les superdividendes. Et là, vous vous êtes abstenu sciemment pour que ça passe. Il y a quand même un certain nombre de points voulu par LFI, dont vous étiez au minimum complice.
C'est pas qu'on est complice, c'est des mesures de
complice. Ce que je dis complice, c'est quand vous avez fait genre on vote pas pour, mais en même temps comme on s'abstient, on fait en sorte que ça passe.
En fait, on avait notre propre mesure pour lutter contre les abus, certains abus des dividendes. Mais nous, on n'est pas des hypocrites. Voilà, on n'est pas des faux culs. C'est-à-dire que s'il y a une mesure,
c'est pas hypocrite ça de pas
non,
voter,
non,
mais en même temps
tout.
De faire en sorte que
non,
ça passe.
Ben non, parce que vous avez une mesure qui dans la philosophie est proche, techniquement est différente. Donc vous dites, bon, philosophiquement, je ne vais pas vous dire que je suis contre la taxation des super dividendes des survivants, puisque c'est dans le programme de Marine Le Pen et de tous les députés qui ont été élus. Donc ça, c'est l'attitude de la gauche ou des autres partis, de dire oui, bon, le RN, ils ont raison, on n'est pas d'accord sur une virgule, donc on vote contre. Les gens supportent pas ça. Sincèrement, je pense qu'ils ne le supportent pas, et je pense qu'ils sont d'accord pour qu'on vote selon la philosophie et pas selon les partis. Et par contre, la condition de ces votes, Madame de Malherbe, c'était de baisser massivement les impôts sur les classes moyennes et les
vous dites, on attend la copie. Vous pensez encore que il est possible que les impôts sur les classes moyennes, c'est ce qu'affirmait hier à ce micro la ministre du budget. Elle a dit les classes moyennes seront épargnées.
Bah, j'attends de voir la copie finale. En tout cas, sur la sécurité sociale, elles n'ont pas été épargnées.
Si tel était le cas, est-ce que vous pourriez encore ne pas voter la censure ?
Ah non, mais on votera forcément la censure parce qu'il y a le deuxième aspect de tout cela, c'est que les impôts n'ont pas baissé, hein, puisque la différence avec la gauche, évidemment, c'est que nous, les quelques hausses d'impôts que l'on soutient étaient contrebalancées par des baisses d'impôts massives qui faisaient que le solde était de 20 milliards, le solde de baisse d'impôts. Et le deuxième aspect, c'est l'état du déficit. Alors on nous dit maintenant, vous savez, c'est toujours pareil, on présente des choses totalement délirantes et après on a l'impression qu'en reculant, c'est moins pire. Donc on dit oui, le déficit était à 5,7% du PIB. Ah, c'est pas grave, il va descendre à 5. Mais 5% du PIB, enfin, Madame de Malherbe, vous vous souvenez des débats il y a 10 ans, passer les 3%, les 3,5% en période de crise économique, c'était déjà scandaleux. Et maintenant, on nous présente 5% comme une
hors
mesure...
Hors crise économique.
Hors crise économique, comme une mesure de bonne gestion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette française est en effet boule de neige. C'est quoi une boule de neige? Vous lancez la boule de neige, et avec le temps, elle grossit, grossit, grossit. Donc, la dette, c'est ça aujourd'hui. On grossit de 70 milliards d'euros par an. On s'endette à des taux.
Sans rien faire. C'est ça que vous voulez dire.
Sans rien faire, c'est moins qu'on puisse dire, malheureusement. Avec des taux d'intérêt très importants qui font que la dette va étouffer les services publics de la France. On est aujourd'hui à des intérêts de la dette qui coûtent 70, 75
milliards. Oui, mais le fait que vous censuriez ce budget ne va pas rendre les choses plus faciles.
Mais ça veut dire qu'on accepte l'inacceptable. Nous, on n'accepte pas l'inacceptable.
Mais votre censure ne va pas pour autant rendre la France plus vertueuse.
Mais à cause des
LR. Ça aura un autre effet, c'est qu'il n'y aura pas, du coup, de budget. C'est ce qui fait dire à Sébastien Lecornu que vous êtes des saboteurs et des artisans du chaos.
Mais ça, c'est pas possible. Vraiment, j'ai été très choqué, vraiment, par le mensonge de Monsieur Lecornu. Pourquoi? Les députés RN, je le regrette.
Il dit que c'est de votre faute,
oui,
RN et LFI.
Non, mais c'est toujours de notre faute. De toute façon, tout ce qui arrive en France est notre faute, alors qu'on n'a jamais gouverné. C'est comme un peu particulier.
Mensonge, dites-vous.
Oui, c'est un mensonge. Pourquoi? Les députés RN, on est 25%. Voilà, c'est tout. On est 25% de l'Assemblée nationale et la petite coalition là de Monsieur Lecornu, ils sont 52%. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles, ce qu'ils ne sont pas. Si ils s'étaient entendus, ils battaient le RN. Si le RN a pu faire passer des choses, c'est que déjà on était plus mobilisés qu'eux, hein, parce que par exemple les économies sur les collectivités territoriales, que tout le monde trouve scandaleux, alors qu'évidemment nous on dit il faut baisser les dépenses des régions et des intercommunalités, on le vote et après on nous le reproche, eux ils votent la même économie et ils sont incapables d'assumer quoi que ce soit. Ce jour-là, le groupe Rassemblement National, à lui seul, était plus présent que tous les autres groupes de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens qui disent oui c'est très grave le budget, ils sont même pas là pour siéger, pour honorer leur mandat, les députés de gouvernement ne sont pas là et après ils disent que le budget c'est très grave. Donc, ils ont été incapables, Madame de Malherbe, aussi bien à l'automne, en hiver qu'aujourd'hui, d'être suffisamment nombreux pour gagner le moindre vote. Le moindre vote, il n'y a pas un seul vote, on en revient à votre phrase, qui n'était pas arbitré par le RN entre la gauche et les macronistes et LR, parce que c'est nous qui sommes présents et qui siégeons de manière
Mais à la
nombreuse.
Fin, ça veut donc bien dire que vous avez une part de responsabilité, vous ne pouvez pas vous en défausser.
Ah mais nous on a une responsabilité, mais on assume nos votes. Vous m'avez jamais reçu, ou d'autres responsables du Rassemblement National, en disant « Ah oui, on a voté ça, on n'est pas d'accord, on n'assume pas ». On assume tout. Moi j'assume des économies sur les régions, sur les intercommunalités. Par contre, j'assume pas que Mme Montchalin vienne mentir à votre antenne en disant qu'on a voté contre les petites communes. Parce que vous voyez cette attitude qui consiste à utiliser le malheur et les difficultés des petites communes pour protéger les barons, les métropoles, les grandes régions qui n'ont aucune difficulté, qui peuvent faire des économies, c'est insupportable. Parce que c'est toujours ce qu'ils font. Là, ils vont faire passer le budget en disant on augmente la prime d'activité pour les personnes qui ont des salaires modestes.
Ça vous êtes pour quand même, non?
Bien sûr,
que j'allais vous dire.
Oui, mais qui peut être contre? Sauf que, bien sûr, quand, le repas à 1 euro pour les étudiants, moi j'ai été étudiant, il y a des jours où effectivement on ne mange pas sa faim, c'est vrai, quand on a des difficultés. Qui est contre? Ok. Mais donc on doit accepter le fait qu'il ne fasse pas d'économie, que le déficit soit complètement hors contrôle.
C'est quoi? C'est une manière de moralement vous faire un chantage?
Et bien sûr. Madame de Montchalin nous avait fait exactement le même coup à l'automne pour sa loi de fin de gestion. La loi de fin de gestion, je suis désolé, c'est un terme technique. C'est la loi qui acte la fin de l'année budgétaire. Donc on nous dit, oui, il y a 25 milliards de hausse d'impôts. Vous devez accepter parce que sinon on ne peut pas payer l'allocation à l'adulte handicapé. C'est ce qu'elle nous a dit mot pour mot, tout le monde peut vérifier, c'était public. Vous vous rendez compte du niveau de cynisme, dire oui, vous devez accepter que le déficit soit dans le décor, qu'on augmente les impôts, parce que sinon on peut pas payer l'allocation adulte handicapé. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement, en fait ?
Le budget de la défense, vous le disiez à l'instant lorsqu'on parlait de Donald Trump et de la question du Groenland, vous disiez il faut que la France se réarme, il faut que l'Europe aussi se réarme. Vous le savez, ils le disent, si ce budget n'aboutit pas, le budget de la défense, qui en est l'un des sous-chapitres, n'aboutira pas non plus. Est-ce que de ce point de vue-là, vous n'avez pas une responsabilité en décidant de censurer ce gouvernement sur le budget ?
Non, parce que sinon on ne peut pas céder à un chantage. C'est tout, c'est simple. Ça veut dire qu'il faudrait tout accepter, y compris les choses inacceptables qui abîment la France, parce qu'il y a une hausse du budget militaire. Nous, on a toujours soutenu les hausses du budget militaire, mais c'est au gouvernement d'être responsable en ne présentant pas des mesures de déséquilibre. Des mesures de déséquilibre, Madame de Malherbe, qui correspondent à ses engagements. Ils ont été élus sur le redressement des finances publiques, et après, ils nous reprochent à nous de vouloir tenir les finances publiques.
Pour vous, les 5%, c'est-à-dire lorsque Amélie de Montchalin affirme ici même hier que ce budget respectera effectivement 5% de déficit, ça n'est pas suffisant.
Et c'est pas du tout suffisant, puisque la dette continue d'augmenter. Ça veut dire que l'année dernière, vous recevrez celui qui sera ministre des comptes publics ou elle, hein, si c'est Madame de Montchalin encore, qui viendra pleurnicher sur le fait que les intérêts augmentent. Ils augmenteront là. C'est mathématique. C'est imparable. Aujourd'hui, ce budget fait que l'année prochaine, on votera plus d'intérêts de la dette qu'aujourd'hui.
Autre point, la question des impôts des plus riches. Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, affirme que des milliers de contribuables très fortunés ne payent pas ou presque pas d'impôts sur le revenu. La ministre du budget dit c'est faux. Il paye tout de même une partie, et ceux qui effectivement étaient cachés dans une holding ou mélangés à des biens soi-disant professionnels pour échapper à l'impôt sur le revenu, nous les avons traqués et désormais ça ne sera plus le cas. Qui dit vrai ?
Ah bah c'est Monsieur Lombard qui dit la vérité. Et Monsieur Coquerel, le président de la commission des finances, hein, et il est pas de mon bord politique, hein, mais je suis obligé de reconnaître que moi, s'il dit la vérité, il dit la vérité. Et c'est pas qu'il paie rien, c'est qu'il paie pas, il paie une somme dérisoire par rapport à ce qu'il devrait payer. Et on en revient à votre question sur la justice fiscale. Nous, on n'a pas voté des mesures, à part les rachats d'actions, d'augmentation des impôts. C'était des mesures, comment dire, qui améliorent la fiscalité pour qu'elle soit plus juste, plus durable et qu'elle soit acceptée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui paie l'essentiel des impôts? C'est pas effectivement, les milliardaires les plus aisés des Français, c'est les classes moyennes supérieures. Voilà, c'est ceux qui aujourd'hui qui paient vraiment beaucoup d'impôts par rapport à ses revenus.
Proportionnellement,
c'est les classes moyennes. Vous êtes médecin, vous êtes notaire, vous êtes avocat. Alors oui, vous gagnez bien votre vie. Vous n'êtes pas à plaindre par rapport évidemment à des gens qui ont le SMIC ou des revenus peu modestes. Mais vous payez vraiment beaucoup d'impôts et c'est un problème parce qu'effectivement les plus favorisés en paient moins. Il faut rétablir cette justice fiscale.
Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen sera à la barre aujourd'hui. On a l'impression que sa nouvelle défense, c'est en quelque sorte faute avouée, à moitié pardonnée.
Non, je crois pas. Je crois que voilà, moi je suis pas au procès, hein, donc je reste avec beaucoup d'humilité là-dessus. Que Marine Le Pen et les autres prévenus d'ailleurs ont les moyens de se défendre et ont l'impression de pouvoir donner leurs arguments et d'être entendus. Voilà que le procès se passe de manière équitable.
Vous pensez que ce sera le cas ?
Bah pour le moment, c'est le cas. Voilà, ça a l'air d'être le cas. Moi, je n'y suis pas, mais les retours que j'ai, c'est que c'est le cas, c'est qu'on peut s'exprimer, on peut défendre des arguments, on doit se justifier évidemment sur un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment un nouveau procès avec des nouveaux magistrats, aussi bien juges du siège que procureurs. Et visiblement, en tout cas, les débats sont de bonne tenue.
Vous êtes donc plus confiant, peut-être, sur l'issue ?
Oui, je suis plus confiant, mais j'ai toujours été confiant, vous le savez, parce que j'interviens régulièrement chez vous et je vous en remercie. Moi, je pense du fond de moi-même, j'ai l'intime conviction que Marine Le Pen est innocente, donc j'ai toujours été confiant sur le fait qu'elle arrive à prouver son innocence.
Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions.
Bonne
député
journée.
RN de la Somme, membre de la commission des finances, vous évoquiez à l'instant Éric Coquerel, LFI, mais en disant qu'il avait en l'occurrence raison. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, était mon invité ce matin. On a parlé budget qui passera donc par le 49-3. Un budget où Sébastien Lecornu a fait de nombreuses concessions aux socialistes. Bonjour François Hollande.
Ça va, poupée ? Hey, je t'ai écouté avec ton Jean-Philippe Tanguy, initial JPT. Hein, budget, Mercosur, Groenland, il a réponse à tout, le chat JPT. Et sinon, t'as suivi le gamin de Matignon, hein? Ouais, Mr Bean, les gros sourcils. Hein, il s'est couché devant le parrain. Hein, il a vu qui c'était Raoul, mon Lecornu. Il a vu mon charisme. Il a été intimidé. Je comprends. Il a voulu s'épargner des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns.
Vous êtes sûr, franchement?
Bah, si je suis sûr, bah, c'est pas Olivier Faure, c'est ou Boris Vallot qui l'ont impressionné. Donc forcément, par déduction, j'imagine que c'est moi.
Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir un budget très à gauche. Hein.
Bah oui, t'as vu l'influence du patron. On a pu y aller à fond sur la gauche, on s'est régalé. Oui. Puis on s'est régalé d'autant que si on creuse trop la dette, on s'en fout, les responsables, ce sera jamais nous. Et c'est marqué le cornu. Donc on le fait danser là-bas. Pouf, pouf. Je crois que j'ai attrapé la maladie de Jean-Philippe Tanguy. Oui, on le fait danser, l'amateur de Pulmou. Hein, c'est, vous avez compris, ce
Pulmou,
c'est, oui, c'est le cornu, oui, c'est, ben, c'est ma marionnette. Vous savez, tu sais quoi, j'ai mal au doigt à force de tirer sur les fils de ma petite marionnette.
Bon, il y a quand même, attention, un risque de censure, hein. Olivier Faure a dit qu'il attendait de voir comment ce budget serait financé. Qu'est-ce que vous avez prévu sur le côté financement?
Le côté que
oui, financement, le, quand même,
financement,
tout ça.
Oui. Alors, oui, non, mais là c'est
qui paye?
Là c'est pas, oui, mais là c'est pas moi, c'est le cornu qui s'occupe de
ah.
ça. C'est oui, mais c'est son boulot. Mais attendez, Madame de Malherbe, vous êtes quand même expérimenté. Déjà mes budgets, je ne les finançais pas. C'est pas pour financer ceux des autres.
Merci Monsieur Hollande, je vous connais bien là. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres.
Oui. Oui. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Jean-Philippe Tanguy était là et j'ai envie de féliciter Jordan Bardella pour son idylle avec la princesse Maria Carolina de Bourbon, des du Sicile de Palerme. Et non, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, non.
Vous voyez, encore une preuve qu'au Rassemblement National, pardonnez-moi de vous le dire, cher Apolline Malherbe, ils n'ont rien contre les étrangers. Allez, nous allons parler économie. C'est aujourd'hui que s'ouvre le 56e Forum économique mondial de Davos en Suisse. Et on va écouter la réaction de François Ruffin qui est avec nous. Monsieur Ruffin.
Davos, c'est quoi Davos? C'est le forum mondial de l'économie mondiale. Non, c'est le forum mondial de l'entre-soi, Madame de Malherbe. Le forum mondial des patrons, des milliardaires qui, sous prétexte d'assister à deux réunions, passent en note de frais tous leurs sports d'hiver. Moi, je dis, c'est les blindés font du ski. Vous croyez que les ouvriers ont les moyens de s'acheter, oui, c'est la raclette, d'acheter un chalet en Suisse ou de se louer des skis? Non, les ouvriers, justement, on en parlait, ils peuvent à peine se payer une tranche de fromage à raclette Marc Repère. Moi j'ai un rêve, Palerme, c'est que Donald Trump confonde la Suisse avec le Groenland, qui bombarde Davos, qui raille de la carte ce repère de riches, finit de se faire exploiter, et on épargne le Groenland, parce que ils n'ont rien demandé, les Groenlandais. Ça reste l'Europe. On garde nos glaçons. On garde nos phoques.
Ah oui.
Et à Trump, il faut oser lui dire à Trump, fuck you. Oui, parce que je dis, ça suffit.
Merci beaucoup, François Ruffin. Merci beaucoup.
Oui, et surtout pardon à nos auditeurs pour tout ce charabia gauchiste qu'ils viennent entendre à l'instant, mais c'est l'ARCOM, que voulez-vous, qui nous impose cette forme de parité dont on se passerait aisément.
Oui, on le pense bien. Merci beaucoup, Pascal Praud. Après plus de 25 ans de négociations, l'accord du Mercosur a été officiellement signé. Jérôme Bail, l'un des leaders de la contestation agricole, voulait réagir. Bonjour.
Oui, oui, bonjour, maman. Le Mercosur a été signé, mais je vous le dis, Pour nous, le combat n'est pas fini. Nous allons poursuivre nos actions, car nous avons le soutien, nous le sentons, de la plupart des Français. Et d'ailleurs, je sais que même vous, dans le studio, je sens bien que vous êtes solidaires, parce que on est un peu les mêmes, on fait un peu le même métier.
Ah oui.
Et on se lève tôt le matin,
oui, 3-4
heures du matin. Nous, c'est pour traire les vaches. Vous, c'est pour en tirer un maximum. Et vous, c'est pareil, pour en tirer un maximum de votre invité.
Vous essayez
mais parfois, il répond pas toujours.
Non.
Quand vous avez posé des questions à Jean-Philippe Tanguy sur le procès Marine Le Pen, on voyait qu'il n'y a pas beaucoup de lait qui sortait. Et on a senti que c'était un peu frileux. Voilà.
Voilà, donc on fait le même merci. Merci voilà. Beaucoup, Jérôme Bail. C'était bien de vous entendre. Rachida Dati voilà. A annoncé.
Je dire après. Mais je suis venu quand même.
Mais ça fait plaisir. Rachida Dati a annoncé ce dimanche qu'elle allait quitter très rapidement le gouvernement pour se consacrer aux municipales.
Oh non. Rachida Dati qui va quitter le gouvernement. Comme c'est dommage, je ne suis que tristesse et déception.
Oh, sérieusement, Stéphane Bern?
Bien sûr que non. je ne comprends même pas comment j'ai pu y croire. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai des talents d'acteur depuis qu'on m'a vu dans ce téléfilm tellement. Policier. J'ai incarné un policier. J'ai même sorti un pistolet à un moment donné, j'ai fait pam-pam. J'étais tellement crédible. Je pensais qu'on était en janvier, mais en fait, c'est Noël. Rachida Dati va se barrer. Exactement ce que je voulais comme cadeau.
Non, c'est pas trop sympa, vous l'aimez pas?
Écoutez, j'ai rarement entendu la victime d'un pickpocket lui tresser des louanges. Mais oui, mais quand même, je prends cette image parce que cette chipie de Rachida m'a quand même volé mon portefeuille de ministre. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'ai de nouveaux espoirs pour le récupérer. Voilà, à moi le ministère de la Culture, les dorures de la rue de Valois, les berlines avec chauffeur, les soirées à décorer Beyoncé. Et puis surtout, fini de présenter des émissions à la con sur les plus belles fêtes traditionnelles des villages français.
Oh ben non, c'est sympa de faire ça.
C'est sympa, c'est agréable, mais n'importe quoi. Je vois que c'est pas vous qui vous tapez le trajet en Kangoo jusqu'à Quimperlé. Hein. Tout ça pour couvrir la fête de la crêpe bretonne à la farine sarrasine, alors que j'en ai rien à foutre de tous ces gueux.
Oh non.
Mais non, je fais semblant de m'intéresser par Pauline Allon. Mais oui, parce que je suis tellement avec l'image de couronne et paillettes que si je veux avoir la culture, faut que je bosse mon côté peuple. Mais j'y suis presque. Vous savez quoi, cher Alain Marchal? La semaine dernière, pour la première fois, j'ai mis des bottes en caoutchouc.
Oh, on vous sent pour votre vie. Merci beaucoup. Merci Nicolas Cantelou. Et Nicolas, d'ailleurs, vous avez participé hier au grand concert des Enfoirés, concert qu'on couvrira en mars à la télé. Donc, je voulais aussi le saluer. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Alain Marchal vient de rentrer dans ce studio. C'est pas
les GG avec, dans un instant, un trio composé de Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie Joël Dagosséry, la coach de vie sera aussi avec nous, Yves Candebord, le cuisinier. On parlera du 49-3 à la mode Le Cornu, de ce budget qui, visiblement, d'après les chefs d'entreprise, va planter l'économie. Et ça, vous viendrez le commenter avec nous. Au 32-16, bien évidemment, on sera avec Charles Alonque, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elle a repris ses travaux.